Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, la Bible, et nous allons aller dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament, le premier évangile de ce Nouveau Testament, Matthieu. Ouvrons notre Bible dans Matthieu, chapitre 25, et nous allons lire ensemble du verset 14 à 23. J'ai un petit titre dans ma Bible qui s'intitule « Les talents ». Parti donc du verset 14. « En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, à un autre 1 seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres en disant « Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. » Sur beaucoup, je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit, « Maître, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai, viens te réjouir avec ton maître. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Amen.
Bonjour à tous et je vous salue fraternellement, les membres de la communauté, également nos visiteurs qui sont parmi nous nombreux ce matin. Et je voudrais aussi profiter de ce temps pour encourager ceux qui passent par des moments difficiles, je le sais, que ce soit spirituellement ou physiquement, que chacun puisse avoir l'assurance que ils sont dans nos prières et que Dieu est présent aussi et que le miracle est toujours permanent. Il faut garder confiance, il faut garder la foi. Nous sommes encore dans cette période dite d'entrée, entrée ecclésiale, entrée sous toutes ses formes. Et il est vrai que, comme à chaque rentrée, l'Église se trouve devant ce défi, permettre à chacun d'œuvrer en son sein. Dans ce travail d'équipe, il est important que nous soyons unis dans l'exercice du ministère que nous aurons choisi. L'unité dans la soumission, l'unité dans le respect dû au Seigneur et bien sûr à notre semblable. Et en ce début d'année ecclésiale, ayons la conviction que le Seigneur soutiendra nos efforts et qu'il ajoutera chaque jour à notre communauté le fruit de notre travail. Dieu nous appelle à un service qui dépasse de loin tout ce que l'on peut imaginer. Dieu nous a placés sur cette terre pour que nous apportions notre contribution. Alors, faut-il rappeler que nous n'avons pas été créés seulement ou uniquement pour consommer les ressources de la terre, manger, respirer, occuper une place ou être un parasite. Notre vie doit contribuer au changement. Il nous a créés pour donner, donner sans rien attendre en retour, mais aussi donner sans rien reprendre. Dieu a un ministère pour chacun de nous, dans cette Église. Il veut apporter un changement dans notre vie en nous engageant comme serviteurs et ministres. Mais voilà, Dieu a un problème. Ne sommes-nous pas heureux de savoir que Dieu prend soin de nous, qu'il est attentif à chacun de nos problèmes ? Le jeune Esaïe a été surpris par la voix de l'Éternel qui disait « Qui enverrai-je ? » Esaïe chapitre 6 au verset 8. L'Éternel avait un message pour le peuple d'Israël. Il cherchait un homme qui soit prêt à faire sa volonté, prêt à faire passer le message de Dieu. Il n'en trouvait pas. Alors le Seigneur a partagé son problème avec le jeune Esaïe. Aujourd'hui, la situation n'a pas beaucoup évolué. Il cherche des témoins qui marchent pour lui, pour faire passer son message. Il cherche des volontaires, des engagés. Avez-vous déjà posé cette question à Dieu ? Seigneur, as-tu du travail pour moi ? Est-ce que tu as besoin de mes services ? Esaïe ne savait pas ce que Dieu allait lui demander. Il était disponible pour n'importe quel service. Vous savez, il y a des églises chrétiennes où les membres pensent que c'est important de se faire voir, se mettre en évidence. Esaïe a répondu humblement, sans savoir où il irait, ni même ce que Dieu attendait de lui. Il répondit de tout son cœur, « Me voici, envoie-moi ». En regardant la foule, Jésus a exprimé ce même sentiment. Il a vu toute la détresse, la solitude, les aspirations de tous ces gens qui étaient venus vers lui. Il était là, seul à répondre à leur attente. Il les a vus comme des brebis qui sont sans soins, sans berger pour les nourrir. Et jusqu'à sa venue, les hommes religieux de son époque ne s'occupaient guère de ces brebis souffrantes et nécessiteuses. Il y avait bien des scribes, des sacrificateurs, mais pas de bergers. Il y avait aussi ces personnes qui cherchaient les honneurs sur les places publiques ou dans des expressions tirées de Moïse, mais pas d'ouvriers. Alors, Jésus expliquait et exprimait son problème devant ses disciples. Et vous connaissez tous ce texte que nous allons lire ensemble, c'est Matthieu chapitre 9, versets 37 et 38. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Mes amis, ce que Jésus cherche, ce ne sont pas seulement des prédicateurs, des chanteurs ou des musiciens pour remplir un programme de jour, mais des ouvriers qui seront et seront à la disposition du maître de la moisson. Il y a bien longtemps de cela, les moissonneurs étaient des gens sans qualification. Il n'y avait pas de métier de moissonneur. Il suffisait d'être de bonne volonté pour faire ce travail. Ces gens travaillaient dans les champs où personne ne les voyait ni ne les remarquait. Le Christ nous accepte avec les qualités que nous avons, car c'est lui qui les donne. Et ici, par trois fois, Jésus pose cette question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu ? À la réponse affirmative de Pierre, Jésus lui confie la tâche de s'occuper des agneaux et des brebis. Alors, combien de fois devra-t-il nous poser cette question ? Ce qu'il attend de nous, c'est que nous nous mettions à sa disposition, en disant tout simplement « Me voici, Seigneur, envoie-moi, tu peux compter sur moi ». Et l'on verra bien vite qu'il nous mettra au travail, si notre cœur est plein d'amour pour lui, mais aussi pour les autres. Quand Ésaïe s'est trouvé devant l'Éternel, il a vite compris sa condition personnelle. Et voici ce qu'il est dit en Ésaïe chapitre 6, les versets 5 à 7. Je vais demander à quelqu'un de l'Assemblée de participer à ce temps de culte et de nous lire ces deux versets. Ésaïe chapitre 6, les versets 5 à 7.
Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. »
Quand Dieu a confié le message à Ésaïe, c'était un homme purifié de tout péché. Le Seigneur peut-il utiliser des vases non nettoyés ? Qui d'entre nous pourrait boire dans un verre sans avoir au préalable considéré son état de propreté ? Le sang du Christ a coulé sur l'autel du calvaire pour nous purifier de tout péché. Il crée en nous non seulement des lèvres pures, mais un cœur propre à toute bonne œuvre. Alors, le maître de la moisson peut nous engager comme un de ses ouvriers. Le monde peut nous regarder vivre. Il peut nous écouter. Il fera la différence et il saura reconnaître que nous sommes des ouvriers de Dieu. Et le Christ dit ceci dans Matthieu 5, le verset 16.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Si nous parlons comme le monde, c'était un peu le thème de la leçon aussi ce matin, si nous nous comportons comme les païens, comment le monde reconnaîtra-t-il que nous sommes des ouvriers envoyés par Dieu ? Comment des âmes qui souffrent pourront-elles recevoir le message du salut et le message de la délivrance ? Bien sûr, il faut admettre qu'il est plus facile dans nos communautés de consommer que de s'investir. Combien de fois dans notre vie de chrétiens, beaucoup de questions ce matin ? Sommes-nous allés trouver le pasteur ou peut-être un responsable d'église et de lui dire « Je suis prêt à servir. Que puis-je faire ?» Et je le redis, en ce début d'année ecclésiale, le Christ nous pose la question « Qui enverrai-je » Et ces questions nous reviennent à chaque fois comme un boomerang. Mes amis, ne mettons pas un frein à servir l'Éternel en prétextant des problèmes d'ordre relationnel. Certainement, ces problèmes existent et nous les traînons parfois comme un boulet qui mine notre épanouissement spirituel ainsi que notre participation à servir le Maître. Alors, un conseil bien avisé pour nos problèmes entre frères et sœurs, toujours dans Matthieu chapitre 5, nous allons lire cela. Pour celui qui veut, Dieu est prêt à accomplir des choses que nous ne pouvons soupçonner. Pour celui qui veut franchir le pas, pour celui qui veut ne plus se laisser entraîner dans cette situation querelleuse ou je ne sais. Dieu a une solution pour cela. Matthieu chapitre 5, le verset 23.
Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande.
Voilà, ce matin, Philippe nous a fait partager ce temps d'adoration à travers nos offrandes. Nous avons tous participé sans peut-être penser même à ce texte, ou peut-être même penser à quelqu'un. Alors si maintenant que vous pensez à quelqu'un, vous pensez reprendre les offrandes, je ne sais pas. Que l'on soit membre d'église, visiteur régulier ou occasionnel, je peux vous dire que c'est le moment est venu de prendre une décision, mes amis. N'oublions pas qu'en choisissant l'inactivité, nous choisissons notre camp. En choisissant l'inactivité, nous choisissons notre camp. Jésus s'exprime sur cette parabole de Matthieu chapitre 25 que Philippe nous a lu tout à l'heure. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ce que nous rapporte Matthieu de la part de Jésus nous surprend certainement. Mais qui d'entre nous ne voudrait pas entendre Jésus nous dire ces paroles? Dans cette parabole, le maître qui part en voyage, bien sûr, c'est Jésus. Les serviteurs sont tous les enfants de Dieu. Et avant de quitter cette terre, Jésus a laissé un exemple à ses disciples en leur lavant les pieds. Il leur dit, vous devez être avant tout des serviteurs. Comme enfant de Dieu, je crois que deux pensées principales doivent dominer nos vies, servir Dieu et attendre son prochain retour. Cette parabole nous montre toute l'importance que nous devrions adopter. Cela est fondamental. Le serviteur, est à la disposition de son maître. Il est donc appelé à travailler. Alors peut-être pensez-vous qu'un chrétien est appelé à être aimé, bien sûr, recevoir des grâces, en partie, on ne se trompe pas là-dessus. Mais chaque chrétien est appelé avant tout à rendre des services dans l'œuvre de Dieu. Il a un plan pour chacune de nos vies, il a préparé des œuvres pour chacun d'entre nous. Et la raison, nous la trouvons dans Éphésiens 2, le verset 10, que nous lirons ensemble. Éphésiens 2, le verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous les pratiquions. » Bien sûr, faut-il encore que nous répondions à cette invitation? Cette question doit être constamment présente dans notre esprit. Quel est le travail que Dieu a pour moi dans cette communauté, ou peut-être dans celle que vous fréquentez, ceux qui sont visiteurs? Un malade à visiter, un témoignage à rendre, une parole de réconfort, un temps de prière peut-être avec quelqu'un de découragé, peut-être un don d'argent en faveur de quelqu'un qui est dans le besoin pressant, un service matériel à rendre à l'église. On a parlé ce matin aussi de distribution d'imprimés ou plein d'autres choses encore. Croyez-moi, le travail n'augmente pas dans l'œuvre de Dieu. On raconte l'histoire de ce frère qui a reçu une promotion dans son travail. Et ce frère est responsable dans son administration. Voilà, il est devenu responsable dans son administration. Et comme il semble que dans l'administration, on ait du temps libre, il a donc proposé d'être disponible pour l'Église. Voilà, il y a du bon à travailler dans l'administration. Et donc, le pasteur de la communauté le dirigea vers une sœur chargée de faire le nettoyage de cette église. Et sa tâche a été de porter effectivement les seaux d'eau. Voilà comment, quelque chose de simple, comment même en tant que chef de service, dans l'administration ou pas, on peut avec joie donner un coup de main, donner un peu de son temps à l'Église. Bien sûr, C'est une banale histoire comme il arrive un peu partout. Hein. Alors, quel que soit le domaine d'activité que l'on a, qu'on soit retraité ou plus jeune, que sommes-nous prêts à faire pour soutenir notre communauté? Dieu a confié des talents à ses serviteurs. À l'époque du Christ, un talent valait une fortune. Et un talent représentait 6000 deniers, sachant qu'un denier était le salaire d'une journée de travail. En fait, un talent représente le salaire, dit-on, de 20 années de travail, sauf erreur. Si je me trompe, on me récupérera à la sortie. Voilà. Mais pour montrer ici que ce que Dieu a confié à ces hommes, c'était une grande richesse. Et nous sommes oubliés parfois de ces trésors que Dieu nous a confiés. La paix, la joie, l'espérance, la guérison, l'exaucement de nos prières, le Saint-Esprit en nous, la réconciliation. Nous rendons-nous compte des trésors inestimables, sans compter les dons personnels, les capacités que Dieu nous a données? Je voudrais attirer votre attention ici pour dire que dans nos communautés, toutes les opinions et courants qui existent dans l'Église doivent être respectés. Mais ceux qui servent dans le champ de Dieu, quelle que soit leur qualité ou leur spécificité du don qu'ils ont reçu de Dieu, travaillent ensemble et même s'ils ne mettent pas encore tout en commun, ils ne doivent pas se sentir au-dessus ni supérieurs aux autres. Cela s'appelle l'humilité, n'est-ce pas? Et nous lirons dans 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 5 et 6.
Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
Oui, un chrétien qui n'est pas engagé dans le travail de Dieu, sous quelque forme que ce soit, est face à un grand risque spirituel. Tout enfant de Dieu qui est appelé à faire valoir les grâces qu'il a reçues, alors, est-ce si difficile de s'engager, ou peut-être est-ce que c'est contraignant? Est-ce difficile de témoigner de l'amour de Dieu? L'amour du Christ nous presse-t-il encore? Combien de temps passons-nous à prier pour ceux qui souffrent, peut-être? Est-ce que peut-être nous avons une liste de personnes que nous avons à cœur de présenter devant Dieu? Ou est-ce que c'est d'abord nous et on verra si j'ai le temps pour prier pour l'autre? Le Christ a fait des dons différents à chacun, 5 talents à l'un, 2 à un autre, et 1 au troisième à chacun selon sa capacité. Le verset 15 de Matthieu chapitre 25. Et dans l'Église primitive, les apôtres voulaient tout faire, même servir aux tables. Ils ont eu la sagesse, par le Saint-Esprit, de choisir des hommes capables de faire ces services. Aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. Dans ce service, il n'y a rien de dégradant. Alors, pour ceux qui agissent, pour ceux qui font, alors merci pour la sœur qui se dévoue pour passer des heures à faire le ménage dans notre lieu de culte, pour la propreté aux abords de l'église, d'avoir des sanitaires propres, d'avoir le chauffage à une bonne température au moment à l'approche de l'hiver, ceux qui ouvrent leurs portes et vous reçoivent à leur table, ceux qui ont le souci du détail et vous envoie une carte d'anniversaire, sans rien attendre en retour. Les animateurs qui encadrent la jeunesse. Oui, merci Seigneur, pour ceux et celles qui prennent le temps d'écouter, d'encourager et de conseiller. Et on peut encore continuer cette liste. Quel que soit le talent, la récompense divine est la même. Ce que Dieu nous demande, c'est de travailler de tout notre cœur. Voilà, dès notre plus jeune âge, pour ceux qui ont eu la possibilité de fréquenter les JA, nous avions chanté cette promesse, sans peut-être trop penser à leurs paroles, sans peut-être même penser à leur implication dans nos vies. C'était le temps où toute la communauté se réunissait, était là pour soutenir les vœux de ses enfants. En nous engageant, nous disions alors à tous et à Dieu que je veux t'aimer sans cesse. Je veux te suivre en vrai chrétien. Je veux être un de tes apôtres. Malgré notre faiblesse, Seigneur, de maintenir le cap. Devenus adultes, certainement, nos engagements ont pris diverses formes. Et ce matin, nous voulons réitérer ce vœu en prenant davantage conscience des paroles, de faire le choix d'être le serviteur de Dieu, serviteur engagé, engagé pour servir dans l'unité de la communauté, engagé pour servir à l'édification du corps du Christ. Non des chrétiens type station-service, comme ça a été dit la semaine dernière, ou self-service, mais des chrétiens en service. Cet engagement que nous prendrons est une réponse à la question qui nous a été posée la semaine dernière lors du culte par notre nouveau pasteur. Sommes-nous prêts à servir l'Éternel ? En Josué 24, versets 19 à 23, Josué pose la question au peuple et le peuple de répondre, nous servirons l'Éternel. Alors ce matin, nous aussi, peuple de Dieu, famille de Dieu qui sommes ici ce matin, ne voulons-nous pas manifester cette solidarité, cette unité de l'Église? Peut-être à ce moment-là, en nous levant tout simplement et dire au Seigneur, je veux te servir. Et alors que nous allons interpréter ce chant, nous aurons tout au long de ces quatre strophes pour le faire. Ne vous mettez pas debout parce que vous ne voulez pas rester la seule personne assise sur le banc. Ce n'est pas ce qui compte. Verset 22 du chapitre 24 de Josué. Josué dit au peuple qui répond affirmatif, Vous êtes témoin contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Pour servir notre Dieu, et nous nous engageons à obéir à sa voix. Je vais inviter Mario de venir prier avec nous pour ce temps particulier où nous avons choisi de répondre à cet appel et présenter cet engagement devant Dieu.
Merci Seigneur parce que tu nous as appelés, parce que malgré nos faiblesses, nos manquements, tu nous acceptes tels que nous sommes à ton service. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce moment, nous voulons être liés avec toi, pour que tous ensemble, unis à toi et unis les uns les autres, nous puissions accomplir la tâche que tu nous as proposé de le faire. Que nos voisins, nos amis, nos collègues puissent voir en nous des témoins de ta parole et que nous puissions accomplir dans l'amour, dans la patience, dans la compréhension, dans la bonne entente, les tâches que tu nous as assignées. Que tu puisses verser ton Saint-Esprit sur chaque personne qui s'est levée, qui a mis le compromis de te servir et que nous puissions te servir à toi et aux autres. Toutes ces choses, nous te demandons dans le nom saint de Jésus. Amen. Amen.
Je vous invite à vous asseoir. Oui, les serviteurs ont des qualités. Mais Jésus fait un reproche ici à Alain, il le qualifie de méchant, de paresseux. Remarquez que Jésus ne lui dit pas qu'il est incapable, car les capacités viennent de Dieu. Mais Dieu n'approuve pas les paresseux. Et Paul dira à ce sujet dans 2 Thessaloniciens 3, le verset 10, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Le paresseux trouve toujours des excuses pour ne pas travailler. Devant le maître, il n'a aucune excuse valable. Un autre détail non négligeable de notre paresseux, il est aussi méchant. La Bible ne lui dit peut-être pas. Il est menteur, un peu mytho peut-être. Souvent, le paresseux, en cherchant des excuses pour ne pas travailler, se met à critiquer, parfois violemment, les uns, les autres. Et ces deux défauts, appelons-les ainsi, sont souvent associés. Le paresseux est souvent méchant, dit-on. Mais cette tendance, ou une autre tendance, peut s'inverser s'il se tourne vers le Seigneur. Quant aux deux autres, ils ont reçu le même éloge. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Et pourtant, l'un a remis 5 talents et l'autre a remis que 2 talents. Ce qui est important ici, c'est la générosité que l'on met dans le service. Le maître n'hésite pas à leur donner mention bien. On peut craindre que cela porte peut-être à l'orgueil, mais pas du tout. C'est un encouragement qui donne envie de continuer, de travailler encore plus. La preuve, c'est que le maître dit à chacun de ses bons serviteurs, « Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Dieu attend 3 choses de nous. Nous devons avoir un esprit de serviteur, quel que soit le travail que nous faisons. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de vedette dans le service de Dieu. Un seul chef, c'est Jésus. Il est le seul à recevoir les éloges et la gloire. Le service doit se faire dans la bonté, c'est-à-dire dans l'amour du prochain et dans l'amour de Dieu. Le serviteur ne cherche pas et n'attend pas de remerciements. Le travail dans l'amour, sans critique, sans objection, avec joie. Le serviteur doit être fidèle, c'est-à-dire régulier dans son travail. Régulier dans son travail. Il ne travaille pas seulement quand il en a envie ou quand cela lui plaît. Il doit aussi travailler en étant en harmonie avec la parole de Dieu. Il ne peut se permettre de travailler pour des causes douteuses ou ténébreuses. Quand Jésus dit « Entre dans la joie de ton maître », il veut dire qu'il est heureux de nous voir travailler pour lui. Et il partage cette joie en la mettant dans le cœur de ses serviteurs, que nous sommes les uns et les autres. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à tous ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Amen.